a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning tour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Campus Tour. Nous sommes le vendredi 23 janvier, il est 7h16 et c'est le début de la matinale hebdomadaire des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Au programme aujourd'hui, Clara Baudard nous parlera du parcours houleux de la loi sur la fin de vie débattue au Sénat. Jules Frécon nous emmènera à Tours, dans le quartier Sanitas, où la candidate LFI pour les municipales part à la rencontre des Tourangeaux. Enfin, Youn Rollin nous fera revivre la finale de la CAN qui couronnait dimanche dernier le Sénégal. Mais d'abord, le Flash Info présenté par Angelina Richard.
À l'issue de la rencontre du président ukrainien avec Donald Trump en marge du Forum économique mondial hier, Zelensky a annoncé des avancées importantes avec les États-Unis, notamment sur la sécurité de l'Ukraine et sur des accords en préparation pour tenter de mettre fin à l'invasion russe. 6 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, lors d'une attaque au couteau en Belgique hier. Les faits sont produits à Anvers lors d'une manifestation kurde. Toutes les victimes ont été hospitalisées. 4 personnes ont été interpellées, selon un porte-parole de la police, qui précise ne pas être en mesure, à ce stade, de confirmer leur motivation. Ne soyez pas étonnés si vous rencontrez aujourd'hui un ralentissement du côté de votre banque. L'intersyndicale des caisses régionales du Crédit Agricole est en grève pour protester contre une augmentation des salaires jugée insuffisante et contre le plan d'efficacité. Ils craignent des suppressions de postes et des licenciements. Une mobilisation inédite dans le pays. Une première aux Oscars, la fable vampirique Cinderesse de Ryan Coogler surpasse les exploits de Titanic ou encore de La La Land avec 16 citations. Quant à lui, Michael B. Jordan reçoit sa première nomination dans la catégorie meilleur acteur. La déception pour l'équipe de France de hand, elle s'est inclinée 32-29 face au Danemark. Pour son entrée en lice dans le tour principal de l'Euro, l'équipe devra atteindre la victoire dès ce samedi face au Portugal s'il veut continuer le championnat.
Merci Angelina, rendez-vous dans 20 minutes pour un nouveau Flash Info. Vous écoutez Good Morning Tour, il est 7h19. C'est un événement tragique qui s'est produit la semaine dernière en région parisienne. Camélia, 17 ans, élève au lycée à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, s'est suicidée mardi 13 janvier. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant son lycée pour dénoncer le harcèlement scolaire dont elle était victime depuis des mois. Manola Mariano revient sur les circonstances de ce drame.
611 000, c'est le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire en France en 2024 selon le Centre interdisciplinaire de la formation professionnelle. Derrière ce chiffre, il y a des visages, des histoires et parfois des drames. Quelques minutes avant sa mort, Camélia avait envoyé des messages bouleversants à sa mère. Elle évoquait son désarroi après une convocation avec le proviseur. Il l'avait accusée de se « victimiser » selon ses mots. Ses derniers mots à sa maman ont été « je cite, je t'aime » et « t'es la meilleure maman du monde ». Peu après, la jeune fille mettait fin à ses jours en se jetant sur les voies du RERB en région parisienne. Ce drame a déclenché 2 enquêtes, dont une pour harcèlement scolaire et a entraîné le suicide. La famille a déposé plainte contre le proviseur ainsi que certains élèves. Elle estime que les signaux de détresse n'ont pas été pris en compte à temps. Le proviseur mis en cause par la famille a été, à sa demande, mis en retrait de ses fonctions le temps des investigations des enquêteurs. Une enquête interne a débuté lundi 19 janvier, a annoncé le rectorat de Créteil, et une cellule psychologique est toujours en place dans l'établissement scolaire. Ces violences répétées peuvent avoir des effets dramatiques sur la santé mentale. Selon des estimations récentes, près d'un quart à un tiers des jeunes victimes ont déjà pensé à se faire du mal ou au suicide suite à des harcèlements scolaires ou du cyberharcèlement. Le suicide de Camélia choque. Mais il nous rappelle aussi une réalité encore trop ignorée, le harcèlement scolaire peut entraîner de graves conséquences allant jusqu'à la mort. C'est un enjeu de santé publique majeur. Derrière les chiffres, il y a des vies brisées, des familles en détresse et des adolescents qui souffrent.
Les proches de Camélia seront prochainement entendus dans le cadre des enquêtes ouvertes après le suicide de l'adolescente. En attendant, la famille de la victime appelle à une marche blanche ce dimanche pour réclamer justice. On reste en France avec un sujet politique. Ce texte, on en parle depuis plusieurs années. Le projet sur la fin de vie est débattu depuis mardi au Sénat. C'est l'un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron et les discussions s'éternisent. Clara, où en est-on exactement avec cette loi ?
Eh bien, justement, Agathe, cette loi, c'est un peu la mal-aimée du quinquennat. Son histoire, elle débute en 2022. Le Comité consultatif national d'éthique décide alors de se pencher sur la question. Elisabeth Borne se saisit du dossier. Elle est alors première ministre et demande au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, une évolution sur ce qu'il se fait sur la fin de vie en France. Cette demande enclenche la création d'une convention citoyenne et pendant 9 week-ends, de décembre 2022 à avril 2023, 184 citoyens et citoyennes tirés au sort ont exprimé leur avis sur la question. Ensuite, une commission temporaire les prend en compte et formule des propositions au gouvernement sur la stratégie et sur le contenu du texte. En 2024, la loi fait ses premiers pas à l'Assemblée, mais la dissolution de juin bloque les débats. Presque un an plus tard, deux textes sont adoptés, un sur les soins palliatifs et le second sur l'instauration de l'aide à mourir. Après ça, ils sont envoyés au Sénat et on arrive à aujourd'hui.
Et justement, comment ça se passe au Sénat ?
Eh bien, les choses, elles se compliquent un petit peu, comme toujours, vous allez me dire. Mais ici, c'est le cœur du projet qui a été redéfini au Sénat. L'article 4 du texte n'a pas été adopté. C'est la partie sur qui peut bénéficier de l'aide à mourir. Avec les changements, l'assistance serait pour des personnes où le décès est prévu dans plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là où l'Assemblée avait au départ tranché pour un horizon plus large, cette possibilité était accessible pour les personnes pouvant décéder dans plusieurs semaines, voire mois, voire années. Mais il fallait une condition, que l'affection soit grave et incurable et cause une souffrance constante et insupportable. Alors, la réduction de ce champ d'application temporel, ça frustre certains. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité accuse la majorité sénatoriale de vider le texte de sa portée initiale et d'anéantir l'espoir des malades en fin de vie.
Ce texte, c'est un des grands chantiers du président. Est-ce que concrètement, on a des chances de le voir passer avant 2027 ?
En tout cas, c'est ce qu'espère l'exécutif. Et Emmanuel Macron a réaffirmé dans ses vœux le 31 décembre. Et si le débat s'enlise au Sénat, il a d'autres options dans la manche. Enfin, une, celle du référendum. Début janvier, selon le journal Le Monde, le chef de l'État avait évoqué auprès de Gérard Larcher, président du Sénat, l'idée de passer directement par les Français après les municipales.
Et on verra dans les prochains jours si Emmanuel Macron opte pour cette option. Le Sénat doit trancher mercredi prochain sur la question. Si les textes sont adoptés, ils repasseront devant l'Assemblée au mois de février. Merci Clara Baudard. Il est 7h24 sur Good Morning Tour, l'heure d'une pause musicale avec le titre « Particules » de Mickey.
Quelle heure il est à elle ? Est-ce que t'es au tel avec elle ? On peut sans que se réveille, qu'elle te raccère. Quelle heure il est dans ta tête ? Tu prends la poudre des scampettes. Tu t'en fiches qui se jette, qui se remplace. Et si mon tel vibre, c'est Kevin Ted ou France Inter. Y'a que toi qui peux te taire dans ces moments. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir qu'elle s'est fait sa place auprès de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de. Je suis qu'une particule, quand je m'approche, je me brûle. Si je m'éloigne, je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Belle pendant le visio avec ma coupe de blaireau, alors que c'était peut-être la terre.
t'es tellement beau, t'es beau quand tu rougis quand tu parles d'elle. Je me dis t'inquiète, c'est pas la peine. C'est quand même pas une top modèle, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Puisque tu cèdes. Je suis une particule qui habite autour de toi, qui habite autour de soi, qui habite autour de.
Vous venez d'entendre Mickey, vous écoutez toujours Radio Campus Tours, il est 7h27. Le 21 janvier, l'armée syrienne est entrée dans un camp de prisonniers djihadistes dans le Rojava, au nord-est de la Syrie. Ceux qui étaient retenus là ont fui, profitant des conflits entre les combattants kurdes et le pouvoir syrien d'Ahmed al-Shara. Mais Bertie Bohar, pourquoi cette région est-elle à nouveau le théâtre d'affrontements ?
Certains l'appellent l'un des quatre Kurdistans. Le Rojava est un territoire du nord-est de la Syrie, né avec la guerre civile en 2011. Mais l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara il y a un an a rebattu les cartes. Depuis le 6 janvier dernier, des affrontements ont lieu entre les forces kurdes décidées à défendre leur souveraineté et l'armée d'al-Shara, pour qui le Rojava est un obstacle à l'unification de la Syrie. En quelques jours, les soldats de l'armée syrienne ont repris une grande partie du territoire kurde, mettant fin à l'expérience d'autonomie du Rojava.
De leur côté, les gouvernements occidentaux peinent à s'accorder pour un soutien aux Kurdes. Les États-Unis, eux, ont choisi leur camp. Washington affirme se tenir aux côtés du pouvoir de Damas, une position qui laisse les Kurdes syriens dans une grande incertitude. On reste à l'international, un nouvel accident de train a eu lieu en Espagne. 6 personnes ont été légèrement blessées. Rachel Giraudot, vous nous en dites plus.
Oui Agathe, ça s'est passé hier à la mi-journée. Un train de banlieue a percuté une grue à Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne. Il s'agit du 3e accident en moins d'une semaine. Dimanche soir, 2 trains sont entrés en collision, causant la mort de 45 personnes près de Cordoue, dans le sud du pays. 2 jours plus tard, c'est à Barcelone qu'un train a percuté un mur effondré sur la voie. Bilan humain, 1 mort et 5 blessés graves.
Ça pose de nombreuses questions quant à la sécurité des infrastructures ferroviaires.
Tout à fait. Au lendemain du second accident de train, le principal syndicat des cheminots a réagi. Dans un communiqué, ses membres se sont dit consternés par la détérioration constante du réseau ferroviaire. Ils ont lancé un appel à la grève de 3 jours. Ce qu'ils demandent, c'est l'engagement de la responsabilité pénale des personnes en charge chargées d'assurer la sécurité des infrastructures ferroviaires.
Mais pour l'heure, nous ne connaissons pas la cause de ces accidents.
Une enquête a été ouverte lundi. Elle devrait durer au moins 1 mois. Pourtant, selon les informations du quotidien espagnol El País, une hypothèse se détache déjà. La détérioration de la voie serait l'une des causes possibles retenues par la commission chargée de l'enquête.
Une voie qui aurait été rénovée en mai dernier, selon le ministre des Transports, Oscar Puente. Merci Rachel pour ces précisions. Il reste moins de 2 mois avant le premier tour des élections municipales. À Tours, le maire Emmanuel Denis est candidat à sa réélection. Mais cette année, sans alliance avec la France Insoumise, qui monte une liste à part. Alors pour faire connaître Marie Quinton, sa candidate, LFI sonne chez les Tourangeaux. C'est ce que fait Christine Blett, adjointe au maire et membre du parti à Tours. Jules Frécon l'a suivie en porte à porte dans le quartier du Sanitas.
La porte est ouverte.
On y va ?
rentrer dans un immeuble, ça permet aussi de voir ce qui est en mode dégradé ou ce qui l'est pas. Au sol, là, on a un dessus de matelas, mais est-ce que quelqu'un dort ici ou pas? On est vraiment au cœur des problématiques des habitants, d'où l'intérêt de faire ces porte-à-porte.
C'est pour les élections municipales, madame.
On passe chez les gens pour aussi me leur dire que c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut aussi s'inscrire sur les listes.
C'est important parce que vous avez votre mot à dire. Et s'il y a des choses que vous voulez me faire remonter.
C'est obligatoire.
Comment?
C'est obligatoire?
Non, c'est pas obligatoire. C'est une démarche individuelle qui nous appartient. Nous, on pense que c'est bien de le faire parce que c'est le moment de vous exprimer, de donner votre avis au moment des élections municipales sur votre cadre de vie, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas.
Symptomatique, c'est qu'elle va me demander si c'était obligatoire de s'inscrire sur les listes électorales. C'est la première fois qu'on me le demande. Ça veut dire que aussi tout le travail de porte-à-porte que nous faisons, c'est un travail aussi de pédagogie, d'information.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est dans le cadre des élections municipales.
Qu'on n'a rien de moi en français. Excuse-moi, mais qu'on n'a rien de...
Et vous n'avez pas un enfant
Non, mais zut, enfin, je porte un magasin.
Eh bien alors, je vous laisse ceci, vous lui donnerez.
Oui, d'accord. Merci, madame. Au revoir.
Au revoir.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la barrière de la langue chez certains habitants, et vous le voyez, où les gens nous disent, bah, là, je peux pas, j'ai des difficultés à m'exprimer. Ce qui est positif, c'est déjà, bah, même là, sur si peu de portes, on a pu échanger et aussi prendre des premières choses à faire remonter pour nous. Donc pour moi, c'est totalement positif. De toute manière, je suis convaincue que c'est la meilleure manière de rentrer en contact avec les habitants.
Un reportage de Jules Frécon. On retourne à l'international avec le 56e Forum économique mondial qui s'est tenu cette semaine à Davos en Suisse. L'occasion de nombreuses annonces importantes pour l'ordre mondial, parmi elles la création d'un Conseil de paix qui entre en concurrence ouverte avec les Nations Unies. Olivia Heidenreich nous en parle.
Et oui, Agathe, Donald Trump a officiellement signé hier la charte de son Conseil de la paix. Conçu à l'origine pour mettre fin à la guerre à Gaza, le Conseil tel que prévu par la charte va plus loin avec un mandat d'intervention pour la résolution des conflits dans le monde. Donald Trump s'impose comme l'homme fort de cette institution. Les décisions prises à la majorité des États membres seront d'abord soumises à son approbation, indique la charte. Le droit de veto n'est pas son seul pouvoir. Donald Trump est nommé président à vie et le seul pouvoir à pouvoir inviter ou révoquer des chefs d'État. 60 pays avaient reçu une invitation à Washington pour y participer, mais seule la moitié ont répondu présent à l'appel et ont signé cette charte. Parmi eux, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Hongrie ou bien Israël.
Et qu'en est-il des autres puissances, Olivia ?
Eh bien, Agathe, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont décliné la proposition de Washington. Ils refusent de soutenir un projet qui concurrence directement les Nations Unies. Le texte de 8 pages critique ouvertement les approches et les institutions qui ont trop souvent échoué. Il appelle les États à avoir le courage de s'en écarter. Mais le président américain insiste, il assure que le Conseil travaillera en coordination avec l'ONU, une collaboration qui reste encore très discutée. La charte prévoit que chaque État membre exerce un mandat d'une durée maximale de 3 ans, mais pour 1 milliard de dollars, cette limitation pourrait bien être supprimée. Les pays qui payent cette somme devraient alors devenir des membres permanents. La charte ne précise toutefois pas où irait cet argent. La France est pour l'instant le seul pays à avoir refusé clairement la signature. La Russie, quant à elle, laisse planer le doute après avoir déclaré mercredi étudier cette proposition.
On rappelle également que le forum de Davos a aussi été l'occasion de clarifier la situation avec le Groenland. Donald Trump a exclu toute intervention militaire, affirmant qu'un accord serait conclu avec ses partenaires, dont le Danemark, et a levé la menace des droits de douane supplémentaires qui devaient être appliqués au 1er février à ses alliés intervenus en faveur du Groenland. Il est 7h35, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'EPJT sur 99.5 FM. On se retrouve juste après le titre Tony Micheli de Ben Mazué.
Quand j'étais petit, c'était il y a longtemps, c'était il y a tellement longtemps. Je me souciais déjà de ce que pensaient les gens de moi et tu sais pourtant. On m'avait plein de fois dit qu'on s'en fout de leur avis. J'avais bien compris mais j'ai pas réussi. Quand j'étais petit, c'était le bon temps. Enfin, pas tant le bon temps. Je me souviens très bien de mélancolie dévastant mon présent. Les dimanches après-midi de quand j'étais petit, je me souviens pas m'être ennuyé autant depuis. Quand j'étais petit, c'était la musique tellement belle de gens que je découvrais. Et tout un monde alors s'ouvrait, c'était complètement incroyable. Les Beatles, v'là la tornade, Bruno Cabrel ou Goldman. Ils ont fait chavirer mon âme. Quand j'étais petit, j'étais heureux. Sans amoureuse, sans alcool, sans zénith, sans pactole. Mais pas sans amis, ni sans idole.
Pas sans idole.
Un footeur, un chanteur, un CM2, une professeure, une copine de ma grande sœur. J'étais fervent admirateur. Quand j'étais petit, j'ai tant aimé les grands. Quand j'étais petit, j'ai tant aimé les grands. Je rêvais d'être Tony Micheli, d'être Tony Micheli dans Madame et Servie. Je rêvais d'être André Agassi, d'être André Agassi, de gagner à Bercy. Je rêvais vraiment, j'y croyais, je m'y voyais, je passais des heures dans leur peau. Je rêvais vraiment, je m'y voyais, je voyageais juste avec mon cerveau. Quand j'étais petit, j'avais la chance de pas connaître encore l'amour. Ça viendra pendant l'adolescence. Dans ma vie, ça changera tout. J'ai quand même eu quelques histoires. Quand j'étais petit, quelques histoires. Avec des personnages notoires qui sortiront jamais de ma mémoire. Petit crush sur Tam des 4 size. Comme j'étais heureux à l'époque, je pouvais tranquille sans que ça sache. Imaginez que c'était réciproque. Je pouvais tranquille sans que ça sache. Aller la chercher en moto. Dans mes rêves, on allait au resto. Mais je la ramenais assez tôt. Je rêvais d'être Tony Micheli, d'être Tony Micheli dans Madame et Servie. Je rêvais d'être André Agassi, d'être André Agassi, de gagner à Bercy. Je rêvais vraiment, j'y croyais, je m'y voyais, je passais des heures dans leur peau. Je rêvais vraiment, je m'y voyais, je voyageais juste avec mon cerveau.
Vous venez d'écouter Tony Micheli de Ben Mazué. Il est 7h39 sur Radio Campus Tour. Merci de commencer la journée avec nous. On retrouve tout de suite Angelina Richard pour un nouveau Flash Info.
À l'issue de la rencontre du président ukrainien avec Donald Trump en marge du Forum économique mondial hier, Zelensky a annoncé des avancées importantes avec les États-Unis, notamment sur la sécurité de l'Ukraine et sur des accords en préparation pour tenter de mettre fin à l'invasion russe. 6 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, lors d'une attaque au couteau en Belgique hier. Les faits sont produits à Anvers lors d'une manifestation kurde. Toutes les victimes ont été hospitalisées. 4 personnes ont été interpellées, selon un porte-parole de la police qui précise ne pas être en mesure à ce stade de confirmer leur motivation. Ne soyez pas étonnés si vous rencontrez aujourd'hui un ralentissement du côté de votre banque. L'intersyndicale des caisses régionales du Crédit Agricole est en grève pour protester contre une augmentation des salaires jugée insuffisante et contre le plan d'efficacité. Ils craignent des suppressions de postes ou des licenciements. Une mobilisation inédite dans le pays. Une première aux Oscars, la fable vampirique Sinners de Raya Ryan Coogler surpasse les exploits de Titanic ou encore La La Land avec 16 nominations. Quant à lui, Michael B. Jordan reçoit sa première nomination dans la catégorie meilleur acteur. La déception pour l'équipe de France de hand, elle s'est inclinée 32-29 face au Danemark. Pour son entrée en lice dans le tour principal de l'Euro, l'équipe devra atteindre la victoire ce samedi face au Portugal s'ils veulent continuer le championnat.
C'était les informations présentées par Angelina Richard. Ils nous ont fait vibrer pendant un mois de compétition intense. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu son verdict dimanche soir. Le Sénégal s'est imposé et décroche le deuxième trophée continental de son histoire. Youn revient pour nous sur la phase finale face au Maroc avec un scénario que même Hollywood n'aurait pas pu imaginer.
Il est 20h au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat lorsque l'arbitre congolais de la rencontre, Jean-Jacques Ndala Ngambo, donne le coup d'envoi de cette finale entre deux équipes prêtes à rugir. D'un côté, les Lions de la Teranga emmenés par Sadio Mané, d'un autre, les Lions de l'Atlas portés par Achraf Hakimi. La première mi-temps s'avère être très serrée avec quelques incursions dangereuses de part et d'autre. Les deux équipes rentrent néanmoins au vestiaire sur un score nul et vierge, 0-0. Poussé par un stade en fusion, le Maroc, chez lui, attaque de plus belle en seconde mi-temps, mais se heurte à une défense sénégalaise solide et à un Edouard Mendy des grands soirs.
On retiendra cependant du match surtout ce qui se passe après la 90e minute.
Oui Agathe, c'est là que la chronique va tourner un peu à l'extra sportif. On joue la deuxième minute du temps additionnel. Abdoulaye Seck reprend le ballon au second poteau. Après avoir heurté le montant gauche de Bounou, le portier marocain, le ballon revient sur Ismail Assar qui le propulse au fond des filets. C'est la folie chez les Sénégalais. Du moins, ça l'était avant que l'arbitre ne refuse le but pour une prétendue faute d'Abdoulaye Seck. La poussette est légère et l'incompréhension s'empare du banc sénégalais qui demande à l'arbitre d'aller visionner l'assistance vidéo. Cependant, celui-ci ayant sifflé la faute avant que le ballon ne franchisse la ligne, il ne peut revenir sur sa décision. Le jeu reprend et dans les ultimes secondes, Brahim Diaz, joueur marocain, est bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre consulte cette fois-ci l'assistance vidéo et octroie un pénalty au Lion de l'Atlas. C'est la folie à Rabat.
Depuis le début de la compétition, l'arbitrage est plutôt critiqué et la suite de la soirée ne va pas arranger les choses.
Exactement Agathe, alors qu'on s'attendait de voir le pénalty tiré, Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais totalement hors de lui, demande à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Oui oui, vous avez bien entendu, c'est l'incompréhension totale. Les joueurs sénégalais rentrent donc au vestiaire en signe de contestation à l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après de longues minutes de flottement, Sadio Mané, l'ancienne star des Red Devils de Liverpool, ramène ses coéquipiers sur le terrain. Il tient des mots forts qui seront captés par les chaînes de télévision. Il n'y a pas de problème, on va jouer comme des hommes. Les Sénégalais reviennent, avec pour certains un sourire narquois aux lèvres, à l'image de Idrissa Gueye. Brahim Diaz prend enfin le ballon, l'embrasse deux fois, s'élance. Et là, sûrement poussé par l'adrénaline, il tente une panenka. Un geste osé, digne des plus grands. Un geste complexe qui consiste à piquer le ballon avec légèreté, plein axe, pour tromper le gardien. Edouard Mendy l'a senti venir et capte le ballon sur sa ligne. Les coéquipiers de l'international marocain sont bouche bée, le stade se tait. Et l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Quelques minutes à peine suffisent au Lion de la Teranga dans les prolongations pour faire basculer cette finale et trouver enfin l'ouverture dans un match irrespirable. Après une longue course, Pape Gueye marque d'une splendide frappe, 1-0 au tableau d'affichage. Le score ne bougera plus, à l'inverse de la place Jean Jaurès de Tours qui s'enflamma toute la nuit aux couleurs vertes, jaunes et rouges.
Le Sénégal remporte donc sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations au terme d'un scénario insensé et peut désormais se sentir fin prêt pour la Coupe du Monde 2026, au cours de laquelle il affrontera notamment l'équipe de France. Il est 7h44 et maintenant Good Morning Tour vous invite à éteindre votre télévision et à lever les yeux vers le ciel. Dans la nuit de lundi à mardi, des aurores boréales ont illuminé une partie de la France. Elles ont été observées à Champs-Rousse, dans les Alpes, ou encore à La Rochelle, en Charente-Maritime. Mais alors, d'où proviennent-elles ? Ludivine Meyer nous explique.
Les aurores polaires sont liées à l'activité du soleil. Ce dernier éjecte en permanence des particules chargées électriquement, qu'on appelle le vent solaire. La plupart de ces particules sont bloquées par le champ magnétique de la Terre, mais une partie est ramenée vers les pôles, où elles entrent en collision avec des gaz dans l'atmosphère. C'est cette interaction qui produit les lumières. Leur couleur, verte, rouge ou violette, dépend des gaz impliqués et de l'altitude à laquelle le phénomène se produit. Mais alors pourquoi les a-t-on observés jusqu'en France? Lors d'éruptions solaires, les particules sont projetées à une vitesse très importante. Résultat, elles pénètrent plus facilement dans le champ magnétique terrestre et peuvent être visibles plus au sud que d'habitude, comme en France par exemple. Et c'est ce qui s'est produit en début de semaine avec une tempête solaire dite sévère. Elle est classée niveau 4 sur 5 sur l'échelle de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Si vous les avez manqués, pas de panique. L'activité solaire fonctionne par cycle d'environ 11 ans et un nouveau a débuté fin 2019.
Autrement dit, d'autres aurores boréales pourraient encore être visibles en France dans les mois à venir. Vous écoutez toujours Good Morning Tour, il est 7h46 et tout de suite on marque une petite pause avec la chanson Lady Lady d'Olivia Dean.
God, I'm gonna miss this house. But I guess I'm moving out Sunday morning. All the things I couldn't live without, I don't need them now. God, I used to love this hair. Now there's something in the air, something calling. Overnight the clothes I always wore don't suit me anymore. She's the man, I think she got a master plan. It's something I don't understand. That lady, lady, she's the. It always had to be like this. So if that was our last kiss, now we know that. Now we know that dream ain't coming true. There's room for something new. Give me something new.
C'était Olivia Dean avec son titre Lady Lady, il est 7h49. Aujourd'hui sur Radio Campus Tour, on fête un anniversaire, celui de Wikipédia. Le site internet emblématique fête ses 25 ans, Lise Oshkorn nous raconte.
Et oui, déjà un quart de siècle pour le célèbre site. Créé le 15 janvier 2001, il cumule aujourd'hui plus de 7 milliards de visites par mois. Sauf que la dernière actu que vous avez sûrement entendue sur Wikipédia date de l'année dernière, lorsque Musk s'en est pris à l'encyclopédie. Le milliardaire américain lui reproche d'avoir parlé d'un signe nazi dans sa biographie après son discours durant l'investiture de Trump. À noter que cet événement possède aujourd'hui sa propre page Wikipédia.
Mais concrètement, comment ça fonctionne ?
Eh bien, il y a plein de petites mains derrière. Sur le site, chacun peut s'inscrire en tant que contributeur afin de modifier et créer des pages. Tout ce petit monde se réunit régulièrement autour de forums pour débattre de plein de questions super intéressantes. Est-ce que ce sujet mérite une page ? Est-ce que ce mot est pertinent ? Faut-il rajouter du contexte ? Etc, etc. Et chez les Wikipédiens, deux camps font face, les inclusionnistes et les suppressionnistes. Leurs noms sont assez parlants, pour les premiers, tout ou presque mérite sa page, tandis que pour les seconds, il faut savoir faire le tri. Globalement, ce sont surtout les inclusionnistes qui gagnent, mais ce conflit continue de fédérer la communauté de Wikipédia. A savoir que le plus grand débat wikipédien enregistré en France a concerné les endives ou chicons. Les contributeurs sont en guerre depuis 2005 pour savoir quel mot est le plus pertinent afin de désigner le célèbre légume.
Pourtant, ça semble rester bien apaisé, contrairement à ce qu'on connaît d'Internet aujourd'hui.
Oui, alors que le site s'inscrit justement dans l'idéal que représentait cette révolution dans les années 90. Allez, petit retour en arrière, cette fois en 1996, à Davos, lors du, devinez quoi, du Forum économique mondial. À ce moment, les premiers contributeurs d'Internet soutiennent une déclaration adressée au gouvernement du monde entier, réfutant toute régularisation par les États. Je vous en cite un passage. Nous créons un monde où tous peuvent entrer sans privilèges ni préjugés dictés par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance. C'est beau quand même. 4 ans plus tard, Google commence à revendre les données personnelles recueillies sur son site. C'est bête, on était à ça du paradis numérique. Alors que le moteur de recherche avait été créé par des étudiants remplis d'idées philanthropiques et solidaristes, la bulle spéculative, dite bulle Internet, aura raison d'eux. Le site a besoin d'argent. Très vite, un modèle économique s'impose dans ce nouveau monde. Et pourtant, encore aujourd'hui, Wikipédia continue de faire de la résistance en restant le seul site qui ne capte pas les données. Mais avec l'arrivée de l'IA, la montée des GAFAM et les attaques de l'extrême droite, reste à voir jusqu'à quand la dernière utopie d'Internet arrivera à se maintenir.
Un anniversaire teinté d'inquiétude quant à son avenir. Merci Lise. Sur un ton plus léger, je ne vous demande pas si vous êtes team endive ou chicon, mais plutôt si vous êtes team chien ou chat.
Moi, je suis plutôt team chat.
Eh bien, dommage pour vous, puisque ce matin, c'est bien de chiens dont on va parler dans Good Morning Tour. Les canidés sont des stars et pas juste à l'écran ou dans les dessins animés. Chaque année, ils ont leur propre classement. Ce matin, nous parlons de ceux de la centrale canine et de l'ICAD. Clara Baudard, vous avez jeté un œil à ces tops.
Eh oui, Agathe. Et cette année, surprise, surprise, la star a été détrônée. Le berger australien, après 7 ans de bons et loyaux services à la tête du classement, se fait doubler. La vedette de Pinterest, dépassée par une autre vedette de Pinterest, roulement de tambour, le Golden. Ils sont un peu plus de 15 000 à avoir rejoint les foyers français en 2025 et ça s'explique sans doute par leur douceur, leur énergie. Beaucoup de ces chiens sont accompagnants pour les personnes malvoyantes ou interviennent en situation de sauvetage. Juste derrière vous, vous en doutez, le berger australien doublé de très peu, 14 600 bébés sont nés en 2025 et à la troisième place, un poil étonnant, je vous le confie, le Staffy, un bisounours très musclé qui peut impressionner. Et tiens Agathe, d'ailleurs, c'est quoi ton chien préféré ?
Question difficile, Clara, mais je dirais le cocker.
Eh bien, justement, Agathe, le cocker, il a la cote. Plus 12% des naissances de cette race, Boule et Bill, ou la belle et le clochard, doivent être ravis. Mais les races des dessins animés ou des films de notre enfance sont un peu plus loin derrière, comme le classique dalmatien, le Saint-Bernard dans Beethoven, ou le dog allemand, dont vous reconnaîtrez sûrement le générique. Et oui, c'est Scooby-Doo, mais bon, comment me parler de ce classement sans mentionner celui de l'ICAD, une délégation du ministère de l'Agriculture. Et oui, c'est du sérieux, là-bas les comptabilisations sont moins restrictives sur les races de chiens, ce qui fait du berger australien le numéro 1 selon l'ICAD, avec plus 31 000 adoptions en 2025. Et ces données, elles permettent de déceler les nouvelles tendances comme la popularité des plus petits canidés, plus adaptés au monde urbain. Alors si on se fie aux résultats globaux, la race qui a le plus de succès, c'est le chihuahua.
Merci Clara, et ces chiffres, ils nous permettent d'avoir une vue sur l'ensemble des canidés hexagonaux. Ils sont 10 millions, et 6 Français sur 10 ont un chien, selon l'ICAD, en 2024. En attendant de passer mes soirées à promener un animal à quatre pattes, je préfère pour l'instant passer mes soirées à jouer aux jeux de société. Organisé le week-end dernier, du 16 au 18 janvier à Tours, l'événement Playgrounds a pour vocation de faire découvrir les rôles que peuvent avoir les jeux de société dans divers domaines. Au cours de ce temps fort, ponctué de tables rondes et de conférences, l'éditeur tourangeau Arkham Society est venu présenter son nouveau jeu de société, De Facto, créé en partenariat avec le fondateur de la chaîne YouTube spécialisée en histoire, Nota Bene.
C'est au sud de Tours, au premier étage de la salle du campus Colae, réservée pour l'occasion, qu'une quarantaine de personnes est venue tester en avant-première le jeu De Facto. François Leoniani, le dirigeant de l'entreprise Arkham Society qui a développé ce nouveau jeu de société, nous en explique les règles.
C'est un jeu qui joue de 3 à 8 joueurs, qui est très accessible. Le principe, c'est donc deviner des faits historiques avec des mots. C'est un jeu qui est très familial, où tout le monde va pouvoir jouer.
Pour Benjamin Briot, co-créateur du jeu et fondateur de la chaîne Nota Bene, spécialisée dans les contenus de vulgarisation en histoire sur YouTube, De Facto possède également un intérêt pédagogique pour les joueurs.
Au-delà de cet aspect un petit peu fun qu'on va retrouver dans le jeu, on peut apprendre quelques petits trucs. Et là, c'est un moyen de se remémorer des dates, des faits qu'on a tous vus à l'école, puisque sur ce jeu De Facto, il y a une centaine de cartes. Donc on a sélectionné à chaque fois des faits. Il y a une description du fait pour que les gens qui doivent faire deviner le fait se remettent bien en tête tout ça. Ça permet d'entretenir, de réviser un petit peu tout ça.
Venu essayer De Facto durant la matinée, Amandine nous partage ses premières impressions après une partie d'une quarantaine de minutes avec 6 autres joueurs.
C'est un jeu qui est très intéressant. Il y a une bonne progression tout au long de la partie. On s'approprie assez facilement les règles. C'était aussi challengeant et amusant. Enfin, ça permet de revoir si on a des bons souvenirs en fait, de nos cours d'histoire de quand on était à l'école. Et on redécouvre des petites anecdotes. Enfin, les cartes sont bien faites. On est bien guidé à ce niveau-là. Donc franchement, c'était très agréable à jouer.
Selon Maddy, également venu tester le jeu de société en avant-première, avoir des connaissances en histoire n'est cependant pas suffisant pour remporter une partie.
Lorsqu'on a les cartes entre nos mains et qu'on veut les faire deviner à d'autres joueurs, finalement, ce qui est récompensé, c'est pas seulement les connaissances historiques, il y a aussi beaucoup la créativité qui peut rentrer en jeu, puisqu'il y a toute une part assez inédite de mimer le fait historique avec les cartes, ce qui est rigolo.
Après la session de test, la matinée s'est clôturée par une conférence animée par François Leoniani et Benjamin Briot, durant laquelle les deux hommes ont dévoilé au public tout le processus de création du jeu.
Pour le moment, une sortie du jeu de société De Facto est prévue pour l'automne 2026 en France, un reportage d'Antoine Camara. Il est 7h58, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, les derniers mots de cette matinale sont à Alia Trabelsi. Ça fait maintenant 2 semaines que Renée Nicole Good, citoyenne américaine de 37 ans, a été abattue par la ICE, la police de l'immigration, dans le Minnesota, aux États-Unis. Un geste fatal, justifié par de la légitime défense de la part des policiers et appuyé par Donald Trump, mais qui, depuis, a multiplié les rassemblements et affrontements en guise de protestation sur le territoire américain. Et pourtant, dans tout ce chaos, Alia, vous décidez d'observer autre chose.
Effectivement, Agathe, mais loin de moi, l'idée de mettre le chaos, comme vous le dites, sous le tapis. Les États-Unis sont entre autres en pleine guerre civile, avec un territoire définitivement divisé en 2 camps. En effet, d'après une étude menée ces dernières semaines par l'Institut Quinnipiac, d'un côté, on retrouve les démocrates qui condamnent les actes de cette police de l'horreur à plus de 94%, contre seulement 16% côté républicain. Une Amérique soudée contre une Amérique collaboratrice donc, et ce ne sont pas mes mots mais ceux de Joe Rogan, influenceur américain pro-Trump. Alors que toute la rédaction me pardonne de citer un tel homme, mais je vous jure ça vaut le détour, cet animateur de podcast d'extrême droite a plus de 17 millions d'abonnés, a lui-même déclaré lors de sa dernière émission « On ne veut pas d'hommes équipés comme des militaires qui traînent dans les rues et attrapent des gens, on va devenir la Gestapo ». Fin de citation. Une prise de conscience à prendre ou à laisser d'un individu qui finalement a placé l'homme à la perruque sur son trône une seconde fois.
Mais alors en quoi on peut y voir ne serait-ce qu'un peu d'espoir, Alia ?
Eh bien dans l'entraide. Quand je parlais d'une Amérique divisée, je n'ai pas occulté les milliers de personnes qui se protègent entre elles, à défaut de leur police. Dans le Minnesota, particulièrement un objet bat sûrement ses records de vente, les sifflets. Mais alors, quel rapport avec cette résistance 2.0, me direz-vous ? Eh bien, l'objectif est finalement plutôt simple. À la vue de la hise, les propriétaires de ces objets à vent doivent souffler dedans, un geste destiné à avertir les personnes potentiellement sans papier, afin qu'elles puissent se mettre à l'abri et éviter le pire. Plusieurs vidéos de cette importante révolution sont visibles sur TikTok par exemple. Personnes âgées, adolescents, adultes, ce mouvement n'a en vérité ni de genre ni de frontières, regroupant pour seul point commun l'espoir d'un monde meilleur pour soi, mais aussi et surtout pour ceux qui en ont le plus besoin. Un message que Trump, j'en suis sûre, sera particulièrement irrité de recevoir, et c'est peut-être là la première victoire.
Un espoir qui clôture finalement très bien cette émission. Merci Alia. Il est 8h01 et c'est déjà la fin de cette matinale. Un grand merci à vous de l'avoir écouté et merci à tous les participants, Angelina Richard, Ludivine Meyer, Olivia Heidenreich, Youn Rollin, Rachel Giraudot, Bertie Board, Jules Frécon, Manola Mariano, Lise Auchcorn, Antoine Camara, Clara Baudard et Alia Trabelsi. Sans oublier bien sûr nos techniciens, Andrés Godefroy et Antoine Camara, qui se sont levés tôt pour assurer la régie. Et on félicite aussi Mathias qui vient d'obtenir son permis de conduire. Mathias, t'es le boss. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.